Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Anormale, où aujourd'hui nous recevons deux illustres personnalités de cette École Normale Supérieure, puisque j'ai en face de moi Vera Léon, ancienne présidente de l'association Champ Libre, et Sébastien Potet, actuel président de cette même association Champ Libre. Donc vous le comprenez, nous allons faire une émission consacrée à cette association bien particulière, association Champ Libre, consacrée au cinéma. Donc bonjour Vera.
Bonjour.
Et bonjour Sébastien.
Bonsoir Paul.
Alors tout d'abord, je tiens à rappeler donc que vous êtes tous deux étudiants en Master 2 en histoire, Vera en histoire contemporaine et Sébastien en histoire moderne, si je ne me trompe pas. Et donc déjà, j'aimerais bien qu'on puisse éclaircir pour les auditeurs cette question du rapport, peut-être, comme ça in extenso rapidement, entre peut-être l'histoire et le cinéma. Comment vous êtes venu à cette association consacrée au cinéma? Je sais pas, Vera, si tu...
Pour ma part, l'engagement auprès du cinéma n'avait pas forcément à voir avec l'histoire, si ce n'est que même dans ma recherche historique, je m'intéressais à la culture visuelle et que donc il y a des liens pour moi qui sont assez forts entre les deux. Mais je n'avais pas particulièrement l'intention de faire de l'histoire du cinéma, même si cette année, j'y arrive malgré moi.
Et personnellement, travaillant sur le 18e siècle, j'avais peu de chance que j'aille au cinéma. Mais l'histoire mène au cinéma, puisque Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes, a fait une thèse d'histoire du cinéma. C'est comme ça, notamment, qu'il a débuté dans le milieu du cinéma.
D'accord. Donc, il y a peut-être des possibilités dans l'avenir. Et d'ailleurs, Thierry Frémaux, dont tu parles, est actuellement professeur associé à l'ENS, oui, et donne des cours à l'Institut Lumière pour les étudiants.
D'histoire du cinéma à travers le regard des cinéphiles.
D'accord. Très bien. Alors, revenons, bien sûr, à l'association qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'association Champ Libre. Bon, d'abord, Vera, je te poserai la question, puisque chronologiquement, tu es la première de vous deux à y avoir participé. Qu'est-ce qu'a été pour toi Champ Libre? Grosso modo, très largement, on va revenir dans les détails plus tard.
Oui, bah, Champ Libre, c'était une association d'une taille raisonnable, on va dire, pour commencer, puisque c'est une des choses qui la caractérise. Et assez jeune également, donc assez malléable et souple encore, pouvant prendre des chemins plus ou moins de traverse et plus ou moins officiels. Et donc voilà, c'était l'occasion pour moi d'avoir un engagement associatif, ce qui était assez important à mon arrivée à l'ENS, à la fois pour l'intégration dans l'école et à la fois pour l'animation, pour la dimension culturelle que ça avait. Et puis c'est aussi toutes les activités assez diverses, mais je pense qu'on y reviendra bien assez par la suite, qui m'ont amené à, enfin, qui me semblait être un pivot possible entre les élèves de l'école et même éventuellement à l'extérieur de l'école.
D'accord.
Et bon, c'est vrai que quand on a trouvé, en fait, nous faisions tous les deux partie du bureau l'an dernier, d'abord, avant de revenir dans un second bureau cette année, et quand on a trouvé la sauce, c'était une petite sauce. Qui, comme le dit Vera, était malléable, et du coup on avait tout à faire, et c'est ça qui était assez agréable. On a pu, pendant un an, diversifier nos activités. On était avant tout une boîte de production, maintenant on est une boîte de production, on fait de la diffusion d'œuvres cinématographiques. Et du coup, c'est vrai que l'année dernière, ça a été vraiment une année un peu de Lego pour nous, puisqu'on a pu construire un peu tout ce qu'on voulait, réunion après réunion, projet après projet, et surtout gagner en visibilité, parce qu'avant on était assez peu connus.
Ce qui était un défi, et du coup c'était assez chouette, parce que finalement on n'attendait rien de nous, et on ne pouvait jamais que donner de bonnes surprises aux spectateurs et aux gens de l'école.
Alors effectivement, donc vous appuyez tous les deux sur le double sens que peuvent prendre les associations comme Champ Libre, et au sens large les associations culturelles, à mon sens, à l'ENS, c'est-à-dire ce double sens, d'un côté favoriser la création, de l'autre côté, permettre une certaine diffusion. Bon, la diffusion, principalement, c'est ce que fait l'association pour laquelle je travaille en ce moment, donc Transistor. Mais il me semble bien que cette double dynamique se retrouve dans Champ Libre. Alors, on va revenir sur ces deux pôles. Donc, tout d'abord, tu disais, Sébastien, tout à l'heure, que avant tout Champ Libre, c'était une maison de production.
Bah. Avant tout, je trouve que Champ Libre, comme les autres associations culturelles, c'est d'abord une offre. Nous, on n'est pas là pour... On est une association de loi 1901, on n'est pas là pour faire des sous. On est vraiment pour offrir aux étudiants de l'ENS et de Lyon, parce qu'on est une association finalement assez indépendante, au point de vue des statuts de l'ENS, on offre la possibilité à des étudiants de faire des courts-métrages, de venir voir des films, et presque dans une perspective de service public, c'est-à-dire que vraiment on est là pour offrir un service aux étudiants, ils viennent, ils profitent, on leur propose des activités, et c'est ça qui est fondamental. Avant tout, on n'est pas là pour... Finalement, la visibilité de notre association ne compte que dans la mesure où notre propre satisfaction, c'est d'offrir, on va pas dire du plaisir, mais l'opportunité à chacun de faire quelque chose en rapport avec le cinéma.
D'accord. Et justement, donc la question que je vous poserai, c'est qu'est-ce que permet Champ Libre pour quelqu'un qui est intéressé de près ou de loin par le cinéma ?
Oui, bah, il y a plusieurs possibilités. On va dire que l'engagement dans le bureau, par exemple, des personnalités qui sont arrivées cette année, était particulièrement dirigé vers les ciné-clubs, par exemple. Donc tout ce qui est rédaction de critiques, mais aussi programmation, donc choix de films, vraiment d'une implication et d'une volonté de diffuser aux autres. Mais il y a aussi pour des gens qui se sont pas engagés dans le bureau ou qui étaient trop pris ou qui, eux, au contraire, avaient déjà un projet extrêmement défini qu'ils avaient envie de soumettre, pour lequel ils avaient besoin d'une aide, qu'elle soit par exemple matérielle, mais aussi financière ou etc. Du coup, ça permet à ces gens-là aussi de lancer un projet, d'avoir un accompagnement de la part de l'association, un soutien, et puis avoir accès à un matériel dont le SCAM nous fait profiter à l'école. Donc c'est vraiment une diversité, un panel assez large. Et également, donc, pour des gens qui sont, par exemple, moins engagés dans un projet directement, qui peuvent être au contraire tentés par une formation, par exemple une formation montage parce qu'ils ont fait eux-mêmes des petits films qu'ils ont envie de monter, ou une formation son parce qu'ils ont envie d'aider un copain qui fait un film. Enfin, c'est assez diversifié.
Voilà, en fait, pour vos auditeurs, je pense qu'il est important de rappeler ce qui constitue le cœur de nos activités, c'est-à-dire qu'on a, disons, trois pôles. On a un pôle production, un pôle diffusion et un pôle formation. En production, on a, je pense qu'on y reviendra, mais les films du week-end, qui sont une activité plutôt amateur, pour les amateurs. C'est-à-dire que vraiment, vient qui veut, le temps d'un week-end, tourner un film dans Lyon en 48 heures. Après, on a un appel à projet. Là, on finance, enfin, on peut aider financièrement, moralement, techniquement, tout porteur de projet qui souhaiterait réaliser un court, moyen, voire long métrage. Mais ça, c'est plus compliqué.
Donc, juste, je te coupe, mais pour ce qui est de l'appel à projet, moi, ça me fait penser à ce qui se fait finalement dans les associations ici, disons, plus anciennes, comme En Scène, où effectivement, il y a ce même principe d'appel à projet et une subvention qui suit, ou une aide matérielle, ou quelque chose comme ça. Et effectivement, en plastique également. Avec au final la carte blanche. Là, on est dans une démarche, disons, plus d'ordre vraiment global. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait imaginer un appel à projet vraiment collectif au sein des trois associations. Mais bon, ça, c'est peut-être plus compliqué à mettre en place.
Effectivement, on peut envisager des appels à projets multiples. On a été contacté par des personnes qui voulaient insérer de la vidéo dans leur projet en scène. Pourquoi pas ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est ouvert à toutes les formes d'utilisation du média cinématographique au service de l'art ou juste simplement de petites productions, enfin peu importe. Ouais. Vraiment, enfin, je pense que ce qui est important dans notre association, c'est qu'on n'a pas d'a priori, on n'a pas d'exigence déterminée. On prend le projet qui nous intéresse, qui est intéressant, qui est original, qui soit contemplatif ou comique, enfin peu importe.
D'ailleurs, il y a des projets extrêmement divers qui nous sont soumis, du documentaire un peu historien, un peu méticuleux, jusqu'au film un peu fantaisiste, éventuellement même film d'animation, comme on a eu l'occasion d'en voir l'année dernière ou encore cette année. Donc il y a vraiment une grande diversité des possibilités pour les gens qui se présentent à Champ Libre.
L'an dernier, par exemple, on a eu un reportage sur les Roms, à côté d'un court-métrage sur la disparition d'un personnage qui s'appelait Albert, ou d'un autre court-métrage qui se passait dans un château avec un drame romantique.
Mise en musique,
c'est diversifié. Et donc du coup, ça, c'est la partie production. Mmh. Depuis cette année, on a un pôle diffusion avec l'organisation d'un ciné-club. qui est très important. Et je pense que les auditeurs ont pu voir de nombreux films qui ont été projetés depuis le début d'année. Donc ce pôle diffusion est devenu assez important, d'autant plus qu'on opère un rapprochement assez important avec Enseigne, afin de faire fusionner nos ciné-clubs et rendre un peu plus cohérente la programmation globale.
C'est vrai que ça, c'est une question importante, puisque on s'est souvent dit, enfin les personnes qui sont à l'ENS depuis deux ou trois années se posent cette question de savoir comment fonctionnent les ciné-clubs, sachant que le BDE a son ciné-club, Enseigne a son ciné-club, puis Champ Libre arrive, et de fait, Champ Libre est de droit... L'association qui doit gérer cet ensemble.
De toute façon, l'important, c'est d'abord de proposer aux étudiants des séances de cinéma. Mmh. Que ce soit Champ Libre, Enseigne, le BDE, peu importe, tant que les étudiants on peut voir des films intéressants, chacun va prêcher pour sa paroisse. Mais,
oui, bien sûr.
Voilà. Mais, point de vue de la rationalisation, effectivement, on espère pouvoir faire fusionner certains ciné-clubs afin que les programmations soient plus claires, qu'on n'ait pas à aller voir la programmation de Champ Libre, d'Enseigne, de BDE. On va pas avoir le monopole des ciné-clubs, mais déjà si on peut rapprocher nos ciné-clubs, ce sera bien.
Donc ça, c'est en cours.
Ça, c'est en cours et ça commence à bien marcher normalement, notamment lors de cette semaine du cinéma où justement notre pôle cinéma Champ Libre et celui d'Enseigne, qui est sensiblement le même par ailleurs, organisent toutes les projections qui ont lieu cette semaine.
Avec Transistor.
Et oui, j'apprenais par Transistor.
Est-ce que tu peux nous rappeler justement la programmation de cette
semaine? Eh bien alors, lundi, mais alors du coup c'est passé par rapport à la diffusion de cette émission, nous avions Feston.
D'accord.
Mercredi soir, nous aurons Hollywood Ending en théâtre Cantor. Jeudi, Good Morning England en théâtre Cantor, juste avant la soirée Stereo Night de Transistor.
Et enfin, un
grand moment. Et vendredi, on clôturera cette semaine du cinéma par Mulholland Drive. En Amphi Schrödinger,
ton
affaire de jaloux.
D'accord, très bien. Donc tu parlais de ce deuxième pôle donc, qui était
de
plutôt
voilà,
consacré à la diffusion.
Mm-hmm. Et donc on a un troisième pôle.
On a le troisième pôle, donc le pôle des formations.
Oui.
Ça existe depuis un moment. Qui sont organisés depuis quasiment la naissance de Champ Libre. En
D'accord.
fait, ça a été... très intimement lié à la création de Champ Libre, puisque très vite, on s'est rendu compte qu'avec un matériel, même pas forcément extrêmement d'une qualité technique extrêmement élevée, on avait besoin de prise en main, de formation de prise en main, parce qu'on a souvent affaire à des étudiants qui sont plein d'envie, plein de projets, qui ont vraiment envie de faire plein de choses, mais qui n'ont pas forcément qui se sont pas encore familiarisés vraiment avec ces outils. Et donc ces formations sont, par exemple, là cette année, vont être sûrement organisées au courant de l'hiver, en fait, sûrement entre le mois de janvier et le mois de mars, on va dire, pour être très large, mais évidemment ça va être plus précisé par la suite. Bien sûr, pour les renseignements, enfin les auditeurs peuvent s'adresser à l'adresse mail de Champ Libre qu'on pourra peut-être appeler à la fin de l'émission. Voilà, les formations donc sont divisées en trois modules principaux qui se complètent les uns les autres, mais qui peuvent tout à fait être suivis indépendamment les uns des autres. Il y a d'abord celui de l'image, donc de tout ce qui est lumière, tout ce qui est captation d'image, etc., donc de toute la formation vidéo. Ensuite, il y a la formation prise de son, qui est souvent indispensable et souvent un peu le parent pauvre des courts-métrages amateurs. Et donc voilà, c'est assez important aussi. Et puis enfin, la formation qui est aussi complémentaire et indispensable, c'est la formation montage, qui permet donc de faire de travailler aussi le mixage par la suite, des sons, puis travailler toute l'orchestration des images avec les sons. Donc voilà, c'est vraiment une espèce de gamme de disponible pour les adhérents.
J'ai envie de dire que même la formation trouve ses applications et aussi sa continuité dans les films du week-end, parce que lorsqu'on n'est pas formé, on ne connaît pas le cinéma, tout ça, qu'on prend une caméra et qu'on va faire un film en un week-end, là on se rend compte de tout ce qui est important. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais les lumières, c'est extrêmement important. Le son, le montage, qui prend des heures, il faut vraiment y penser, il faut savoir quel plan on va faire, comment on va les faire. Et c'est vrai que je pense qu'on a quand même une certaine cohérence dans nos activités, parce qu'elles se complètent les unes les autres.
C'est ça. Et puis faire un film du week-end peut donner envie de faire des formations, de même que des formations elles-mêmes vont donner envie d'avoir une application et donc de faire des films du week-end. Et puis à terme aussi, il y a des gens qui font des formations et puis qui l'année suivante ou même parfois l'année même où ils font les formations vont vraiment être porteurs de projets et avoir un projet ambitieux, déjà même techniquement, esthétiquement, enfin voilà. Donc ça permet vraiment un aboutissement des activités.
Oui, c'est vraiment une cohérence dans les trois formations que tu as évoquées. J'imagine que les gens souvent les font tout ensemble. Enfin, il faut plutôt les suivre parce que, à t'entendre, on comprend que ça n'a pas trop de sens de faire une formation de son tout seul.
Sauf exceptionnellement, par exemple, on a eu quelques demandes. On pourrait avoir imaginé, par exemple, des gens de Transistor qui seraient intéressés par la formation son uniquement. Ou des gens qui ont déjà été formés par leur parcours à l'image et qui voudraient avoir uniquement le montage. Mais effectivement, il est bien clair que c'est une formation complète. ça apprend vraiment son sens.
Surtout, ces formations sont quand même assez exceptionnelles, on va dire. Sans vouloir nous jeter les fleurs, mais au sens où c'est rare de pouvoir avoir une formation complète. Alors évidemment, on a 6 heures par module, c'est pas non plus, ce sont 2 semaines. Mais c'est des formations qui permettent quand même d'avoir une vision un peu de ce que c'est que la technique du cinéma pour un prix qui est quand même accessible pour les étudiants. Et c'est vrai que c'est pas mal dans. Quitte à être dans cette école, d'aller faire un peu de cinéma et de profiter un peu de ce que nous offrons.
Oui. C'est vrai que ça permet de mettre à la disposition des étudiants des formations qui habituellement, même dans leur forme courte, qui sont proposées par l'INA par exemple, ou par d'autres institutions, ou par des écoles de cinéma, la plus souvent privées, puisque les écoles de cinéma publiques passent par des concours extrêmement sélectifs. Ça permet vraiment en 15 heures d'avoir l'accès à des formations habituellement très inaccessibles.
D'accord. Et donc, on en parle, on l'évoque et on repousse. Mais ces films du week-end, finalement, puisqu'on a pas mal évoqué, mais...
Alors oui, parce qu'en fait, je vois où tu veux en venir. Parce qu'en fait, finalement, si on fait un bilan un peu de nos activités de ce début d'année, on vient à peine de lancer le projet. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis septembre? On a fait beaucoup de projections de ciné-club. On reviendra sûrement dessus avec un cycle nostalgique annoise, plus des nuits qui commencent à être organisées. Et on a fait surtout des films du week-end, très récemment,
les 5 et 6 novembre de ce mois-ci,
et on a pu produire ainsi 3 films, 3 courts-métrages autour d'un thème que nous avons choisi, qui était le thème muet.
Est-ce que vous pouvez rappeler les thèmes précédents? Il y en a combien des autres?
Alors, les premières années, il y a eu quelques tentatives, quelques initiatives des films du week-end. Par exemple, il y avait eu le thème du café, c'était la contrainte du lieu en fait.
Ah d'accord, oui.
Donc ils étaient partis dans Lyon et puis ils étaient allés tourner autour de café. L'année dernière, nous avions choisi 2 thèmes. Il y avait le premier thème au cœur de l'hiver, en novembre aussi, c'était À part ça, tout va bien. Donc un thème un peu suggestif ou pas, selon les, selon les herméneutes. Le deuxième thème de l'année, c'était Labyrinthe, puisque c'était un thème qui était lancé en partenariat avec En Plastique. Et donc, c'était la volonté vraiment de faire marcher les 2 associations ensemble pour cet événement de la carte blanche, événement qui clôture l'année et qui la magnifie, si on peut dire. Et voilà, donc cette année, du coup, c'était un peu un changement, puisque c'était a priori une contrainte qui pouvait s'avérer plus technique, mais finalement, qui a été interprété de manière très libre par les...
Oui, qui était à la fois thématique...
Par les groupes.
Donc on a eu 3 films totalement différents. On a eu un film auquel Vera a participé. Est-ce que tu peux en dire un mot? Parce que... Comment tu le décrirais? Parce que je ne sais pas comment le décrire.
C'était un film qui s'est appelé Le vélo qui tourne. C'était un film qui mêlait animation et fiction habituelle, donc réalisme à la caméra au point. Et voilà, c'est l'histoire d'un vélo, on va dire, de manière un peu, un peu imagée.
Un vélo ou un vélo?
Un vélo, tout à fait. Un vélo cassé, un vélo volé, enfin, toutes les mésaventures du vélo. Voilà. Et puis Sébastien également a participé au deuxième des films, des courts-métrages du week-end.
Oui. Un film un peu plus parodique qui s'appelait Il va la fermer sa gueule, ou La vie intérieure de Bernardo, qui parlait de l'histoire d'un muet assez célèbre, Bernardo, qui accompagne son fidèle compagnon Zorro dans un film plutôt parodique autour de Zorro, mais on en était assez contents.
D'accord.
Et on a eu un troisième film qui s'appelait Carpe Diem.
Carpe Diem.
Carpe Diem. C'est une histoire de pied. Mais je pense que le mieux, on les projettera, à mon avis, à l'occasion de Ciné Club et surtout lors de notre festival de fin d'année.
Mm-hmm. Donc, le festival Contre-Champ, donc, qui interviendra en mai, a priori.
En mai, sûrement. Et du coup, on invite tous les auditeurs à voir ces courts-métrages qui sont sympas. C'est vrai qu'il y a une différence entre l'appel à projet et les films du week-end. C'est que les films du week-end, c'est des films beaucoup plus légers parce que faits en peu de temps, avec peu de moyens, mais qui, du coup, sont un peu des bouillons de créativité sur le moment.
C'est vraiment le fruit de l'excitation d'une équipe pendant un week-end et voilà, des contraintes. Il y a eu un film qui n'a pas pu, par exemple, être projeté au bon moment. Bon, voilà, c'est vraiment l'histoire d'un week-end, quoi. Il peut s'en passer des choses.
Oui, parce que concrètement, ce qui se passe... Enfin, moi, ma perception des films du week-end, j'ai jamais participé. L'idée que j'en ai, c'est une équipe qui se retrouve un samedi matin à avoir un thème ou une contrainte technique, lâchés dans la nature, et leur seule contrainte, c'est dimanche soir, vous rendez à telle heure, voilà. Et projection ensuite.
Voilà. Ouais. Dimanche soir, on organise un apéro, tout le monde est invité,
convivial,
et on projette les films. Donc voilà, à partir du samedi matin, c'est le rush, top chrono, il faut que le dimanche soir, 20h, il y ait un film de montée qui soit projeté.
En général, ça donne lieu à parfois quelques tensions même, pour finir au bon moment, pour retrouver
le film.
Du coup,
c'est un événement, alors je ne cache pas qu'il y a parfois des tensions dans les groupes, parce qu'avec la pression du temps, c'est pas facile. Mais c'est quand même un événement assez convivial, parce qu'en plus on petit déjeune ensemble, on discute ensemble, on regarde les films ensemble à la fin, enfin c'est vraiment un événement sympa qui contraste avec finalement l'appel à projet, qui sont des projets plus individuels, mais qui là par contre techniquement, artistiquement sont plus aboutis, plus intéressants, enfin il y a vraiment un travail sur le long terme qui est fait sur ces projets là.
Oui, on peut pas avoir la même exigence évidemment d'une forme courte, très amateur, qui est vraiment faite pour libérer la créativité, même en un week-end, même parfois des agrégatifs viennent se greffer au projet, juste histoire d'avoir un petit coup de folie pendant un week-end. Évidemment, c'est pas la même chose qu'un appel à projet plus sérieux et plus à long terme, comme tu disais, quoi.
Et une question bêtement pratique, est-ce que les films du week-end ou les formations dont on a parlé tout à l'heure, son, image et montage, est-ce que tout cela est payant? Comment ça se passe? Il suffit d'être adhérent à l'association?
Évidemment, il faut être adhérent.
Oui, bien sûr.
Voilà. Ensuite, les formations.
Mais l'adhésion, quand même, est assez modique. Enfin, peut rappeler juste que c'est 6€ donc pour les auditeurs et 12€ pour les normaliens, donc c'est quelque chose de tout à fait accessible.
Voilà. Et les formations coûtent cher à l'association. Donc, du coup, effectivement, on demande une participation. Mais qui encore une fois
est assez faible
comparé à ce qu'on pourrait payer sur le marché des formations extérieures.
D'accord. Et on peut dire que l'association subventionne finalement les formations, puisque les formations ne sont pas, on ne fait pas payer au prix coûtant à chacun des participants. Mais en revanche, par exemple, les films du week-end, c'est une manifestation complètement gratuite, y compris l'apéro final. Enfin, ça fait partie du principe. C'est important, le rappeler.
Ça fait partie de notre mission. Voilà, c'est notre service. Mission. C'est-à-dire vraiment, nous, on veut offrir la possibilité de faire ce qu'on veut.
Et que les gens puissent s'éclater dans ce qu'ils font, quoi.
D'accord. Voilà.
Et donc, du coup, partant des films du week-end, moi, j'en avais vu quelques-uns. J'ai été à la projection des derniers du 5 et 6 novembre. J'ai remarqué une chose. Le vélo, le rappel, et votre court-métrage sur Bernardo également. Ça sort beaucoup dans Lyon, finalement. Le tournage se fait beaucoup dans la ville, on reconnaît des endroits. Et moi, je trouve qu'il y a aussi cette dimension presque amoureuse avec la ville, en fait, dans vos courts-métrages, dans ce que vous proposez, ce que j'ai vu l'année dernière également. Et je vous poserai cette question, on l'a évoqué en début d'émission. Est-ce que Champ Libre a une vocation à être dans la ville? On parlait tout à l'heure d'un rapport un peu plus distant avec l'ENS que d'autres associations, par exemple.
Bah oui, c'est-à-dire que avoir une association de cinéma qui tournerait dans l'ENS avec que des gens de l'ENS, on tournerait assez vite en rond. En plus, on a quand même une belle ville. Lyon qui offre quand même des quartiers très variés, on a des parcs absolument géniaux, en plus on peut aussi sortir de Lyon, on a une belle région, enfin, vraiment l'idée c'est, à partir du moment où on fait du cinéma, c'est quand même d'utiliser tous les décors qu'on peut avoir à la disposition.
C'est un petit côté régionaliste.
Oui, non, c'est l'émission. Vrai que
elle est belle notre
région. Ouais, bon, c'est vrai que voilà, on l'offre les porteurs de projets sont généralement lyonnais, parce que nous, on veut aider le milieu étudiant lyonnais avant tout, parce qu'on est ici.
Et puis, il y a une question technique aussi du matériel, voilà. qui évidemment, on ne veut pas qu'il sorte de la région lyonnaise trop longtemps, puisque ce n'est pas un matériel qui nous appartient directement.
Ouais. Et puis voilà, vraiment, on a quand même des décors qui sont extraordinaires. Enfin, dans le cadre du court-métrage qu'on a fait autour de Zorro, on a tourné à la Croix-Rousse, on a découvert des lieux qu'on ne connaissait pas, des espèces de fausses montagnes qui étaient parfaites pour des scènes de combat à l'épée. Enfin, c'était... Non, il y a vraiment quelque chose à faire avec Lyon. Et c'est vrai que la ville a un terrain extraordinaire pour faire des courts-métrages, quoi.
Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi une question d'ouverture, on va dire... Enfin, propre à l'association, qui est aussi de faire sortir le cinéma de la section cinéma uniquement, c'est-à-dire de gens qui sont souvent dans une approche assez théorique du cinéma, parfois aussi pratique, mais pas toujours, et puis de l'ouvrir aux autres sections, et puis au-delà des sections même de l'ENS, bien sûr, pas uniquement les sections littéraires, également les sections scientifiques, et puis même au-delà, donc comme je disais, même ouvrir au monde lyonnais, on a eu l'année dernière un des porteurs de projet qui venait de Lyon 2, par exemple, donc ça, c'est vrai que c'est une richesse aussi de pouvoir s'ouvrir, parce que finalement, après tout, on a la chance d'avoir cette ville, mais aussi ce matériel, cette infrastructure, cette association, et donc on a vraiment envie d'en faire profiter le plus possible, d'ouvrir, quoi. Vraiment.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est quand même, à l'ENS, on a des conditions exceptionnelles pour faire des courts-métrages. C'est-à-dire que Champs Libres n'a pas de matériel à l'heure actuelle, en son nom propre, c'est le matériel de l'ENS qu'on loue, on a une assurance, donc voilà, on peut se faire sortir du matériel, et on peut avoir accès à de très bonnes caméras, et surtout, on a accès à des salles de montage à l'ENS qui sont absolument géniales pour faire du montage de films, quoi.
Et y compris même pour le tournage, par exemple, il y a un studio télé, enfin il y a vraiment tout un panel de
et je pense que s'il n'y avait pas si on oublie la section cinéma, je pense que ce matériel serait absolument pas utilisé par les étudiants, tout comme le matériel de captation son. Si Transistor n'était pas là,
le studio,
les géographes,
ça servirait pas à grand chose à part pour des sociologues et géographes qui utilisent du matériel pour faire des interviews et des entretiens. Voilà, c'est aussi une manière d'utiliser toutes les possibilités qu'on a en scène. On utilise quand même peut-être Cantor, qui est un théâtre exceptionnel. Nous, on essaie de l'investir pour des séances de cinéma en créant des ambiances, en faisant des nuits, des choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment aussi utiliser des possibilités qui, à mon sens, sont encore un peu inexploitées. C'est vrai qu'on a vraiment plein de choses à faire, on a beaucoup de choses auxquelles on a accès et il faut en profiter, quoi.
C'est vraiment l'idée d'être un médiateur, quoi, aussi, entre l'école et puis voilà, donner aussi envie aux étudiants vraiment de profiter de ces opportunités.
C'est vrai que il y a tout un tas d'équipements qui, me semble-t-il, sont beaucoup mieux et beaucoup plus utilisés par les associations culturelles que par les sections même de l'ENS. Enfin, ça, c'est mon point de vue, mais quand on pense qu'on a quand même dans cette école un studio d'enregistrement, des salles pour le montage vidéo, que je connais moins, mais voilà.
Trois salles avec du matériel.
Ce qui est incroyable. Une salle de théâtre magnifique, un labo de développement photo parfait, enfin voilà, un ensemble d'équipements. C'est vrai qu'on a tendance à oublier ça. Quand on n'est pas à fond dans une association ou simplement, on n'est pas dans une section artistique. Et c'est vrai que c'est un peu le rôle des associations de faire valoir aussi les potentialités.
Mais c'est pour ça que cette année, on a un rapprochement des associations culturelles, vraiment depuis cette année en particulier. Et je crois que ça permet vraiment aux étudiants d'avoir conscience progressivement de toutes ces possibilités. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait d'un partenariat entre associations sur certains projets. Faut pas hésiter. Quand on fait un spectacle en scène, si on veut de la vidéo, aller voir Champs Libres. Si on veut du son, aller voir Transistor. Si on veut des décors fabuleux, aller voir en plastique. Enfin, vraiment, il y a des choses à faire. Et je pense vraiment aussi une part de notre vocation, entre guillemets, c'est vraiment de mettre à profit tout ce qu'on peut avoir. Parce que ce serait vraiment trop bête de passer à côté.
Et puis après tout, il n'y a pas de raison. Enfin, voilà, les infrastructures, par exemple, sont aussi tout à fait riches dans le domaine sportif et sont très bien exploitées par l'AS. Et donc, il y a vraiment cette richesse offerte par l'ENS. Et donc, c'est aussi notre rôle d'avoir un rôle aussi moteur et aussi important que l'AS, finalement, qui est aussi une grosse association. Mais voilà, que dans le domaine culturel également, il y a vraiment cette dimension de diffusion et d'offre aux étudiants. Et
la différence avec l'AS, c'est que l'AS est presque institutionnalisée dans les démarches.
Tout à fait.
Et pas du tout les autres
et bénéficie d'un budget qui va avec, etc. Voilà. Tout à fait.
C'est le problème de nos petites associations où on a
mais nous
de
nous
budget.
Battons.
Voilà.
Pas contre l'aise.
C'est ce qui fait notre charme.
C'est vrai. Alors, avant de finir, j'aimerais quand même vous poser une petite question un peu plus personnel, mais quand même qui me tient à cœur. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a, selon vous, un style champ libre? Parce que moi, j'en perçois un. Hein. Alors, je sais pas.
Mais alors,
ça nous intéresse.
Dis-nous d'abord
que...
quelle est ta perception, après, on te dira ce qu'on en pense.
Bah, le style champ libre, en tout cas, on en a rapidement discuté. C'est vrai qu'il a pu évoluer, puisque on n'en a peut-être pas assez parlé, mais votre histoire, enfin l'histoire de champ libre est assez courte, puisque ça fait quoi, 4 ans?
C'est la quatrième bureau cette année.
C'est le quatrième bureau, donc c'est une association assez jeune.
Tout à fait. Ouais.
Et qui se déploie, qui se développe de manière assez impressionnante. Moi, pour ma part, quand je suis arrivé à l'ENS, champ libre n'existait presque pas. Enfin, en tout cas, l'année où j'y étais, la première année, c'était presque absent. Puis après, donc, il y a l'année où vous étiez dans le bureau, l'année dernière, puis cette année, où il me semble qu'il y a eu un gros, gros développement. Mmh. Et le style, justement, pour y revenir, de l'association, déjà, je voudrais dire qu'il y a un style visuel, non seulement via les affiches que vous faites, qui sont toujours en référence à, enfin, toujours ou souvent, en tout cas, en référence à des grands cinéastes, à des grands films. Et même...
Quoique la dernière affiche montre l'attaque de l'araignée géante, qui n'est pas un grand film.
Ah, je ne l'ai pas vu celle-ci. C'est pour que c'est l'affiche, pourquoi?
C'est pour l'appel à projet qu'on a mis il y a quelques jours.
Bon, mais sinon... sinon...
Et nous avons aussi la nostalgie n'est plus ce qu'il était, mais dans ce cas-là, c'est une affiche de production,
c'est
un peu différent.
Mais je pense par exemple à Kubrick... à Hitchcock, qui reviennent souvent. Mm-hmm. Bon, forcément, les...
The Big Lebowski, l'année dernière, ouais. Avant le bureau précédent qui avait lancé. Là.
Voilà, donc c'est toujours un peu sous ces grandes références que vous placez. Et malgré tout, il y a depuis l'année dernière une sorte de mythe que vous avez déployé. Et nous, qui ne sommes pas dans le bureau et dans les ficelles de l'association, on se dit... Diable, ce sont des VIP de haut niveau, puisque vous avez quand même une sacrée relation avec Cannes et le festival, et vous la revendiquez, enfin vous la mettez en avant.
Oui, on se la raconte.
Je ne vais pas le dire comme ça.
On se la raconte, c'est bon. Alors donc deux points. Donc d'abord l'identité champ libre. Je pense qu'elle a été très marquée d'abord par les fondateurs. Paul Monceau et Axel Scoffier qui nous ont quittés, au sens où ils ne sont pas cette année à l'école.
Ils sont passés outre-Manche, les traîtres.
Je pense que vous aurez l'occasion de les entendre dans cette émission. Qui ont vraiment institué. Il y avait vraiment une volonté d'esprit bon enfant. C'est-à-dire, on vient à Chandier, on fait un court-métrage, on est là vraiment pour faire quelque chose qui nous fait plaisir. On n'est pas en quête d'Oscar, on n'est pas là pour avoir un prix ou quoi que ce soit. On est vraiment là d'abord pour se faire plaisir et produire quelque chose d'intéressant. C'est ça la base. C'est pour ça aussi que nos affiches. Alors effectivement, il y a du Kubrick, il y a beaucoup d'autres cinéastes. Il y a des images de films comme Elephant Man l'année dernière. Mais je crois que on essaie de mettre un peu de dérision là-dedans parce que vraiment, on essaie d'abord de s'amuser, quoi.
Et c'est proche d'ailleurs de toute une rhétorique, je trouve, qui est pas tellement propre à Champ Libre, mais qui est aussi tout à fait commune à plusieurs associations culturelles. On peut penser à ces affiches d'En Plastique il y a quelques années, En Plastique m'a tout appris, ou des... ce genre de boutade.
C'est Klimt qui dit ça.
Voilà. Donc, j'ai sous les yeux, nous sommes en cafette, l'affiche du BDE, là, j'ai écrit l'essentiel de mon œuvre Way. C'était avec Victor Hugo en fond, donc il y a quand même toute une idée comme ça où on se place sous l'égide, on va dire, de grands auteurs, de grands réalisateurs. Mais après, c'est vrai qu'il y a, une affiliation spécifique, je peux peut-être enchaîner sur ça. Alors, sur ce que... Ouais, vas-y.
Juste par rapport à l'esprit champ libre, du coup, cet esprit vraiment des raisons était d'abord attaché à la partie production. Alors maintenant, on a la chance d'avoir un pôle cinéma, ciné-club, très compétent. Qui nous font des critiques extraordinaires des films qu'on projette. Et du coup, maintenant, on a vraiment un aspect aussi cinéphile et une culture cinéma enrichie depuis cette année avec cet apport du Ciné-Club.
Entre parenthèses, je tiens à rappeler que dans l'émission de cette semaine de Transversar, il y a une critique justement de Louis, qui est au pôle cinéma d'Ancène,
oui.
de Champ-Libre. De Champ-Libre, justement.
Et d'Ancène, c'est-à-dire que...
Ah oui, c'est ça. Double casquette. Et justement, il exerce ses talents de critique cinéma.
Sur le film Michael, là, qui est sorti de Markus Schleinzer, je crois, qui est un film que nous avions vu à Cannes.
Donc, transition.
On y revient, très bien, vous faites les transitions parfaitement. Et donc, du coup, Cannes.
Oui.
Cannes?
Bah, Cannes, d'abord, c'est la ville où est né Axel Skoffier, donc un des deux fondateurs. Donc, il y a vraiment une affiliation presque géographique, on peut dire, entre Cannes et Lyon. Et puis, donc, ça nous a beaucoup marqué. Et puis, ça nous a permis l'année dernière de faire un séjour. Bon, bien sûr, il y avait les accréditations qu'on avait demandées, mais il y avait aussi cette possibilité d'accueil qu'ils nous avaient offert. Et du coup, voilà, justement, avec tout cet esprit, tout ce sens critique et tout cet esprit de dérision qui peut être celui de Champ Libre, d'aller vraiment se confronter au quotidien des stars. Mais en l'occurrence, c'était moins des stars que des films et des salles de cinéma, de tout ce milieu cinéphile qu'on rencontre à Cannes et qui a tout son folklore aussi, toute sa fantaisie avec lui.
Voilà, puis Cannes, c'est vraiment une expérience, quoi. Nous, on l'a fait l'année dernière et on espère pouvoir refaire, c'est-à-dire avoir des accréditations et emmener un maximum de personnes à Cannes, voir ce que c'est et surtout voir des films. C'est vrai que le folklore, c'est vraiment amusant, mais on a surtout la possibilité de voir pendant des jours entiers des films que, par exemple, on parle de Michael.
Oui, des films qui sortent aujourd'hui.
On l'a vu en mai dernier, et c'est vrai que...
Les artistes aussi étaient en sélection.
Drive.
Ouais, il y avait beaucoup de...
Mais du coup, on se la raconte. Voilà. C'est normal, parce qu'on a été à Cannes.
vous avez de quoi...
Mais en plus, c'est aussi une source d'inspiration. C'est vrai que, du coup, l'ancien bureau a lancé le cycle Nostalgie Cannoise, qui permettait d'utiliser cette référence de Cannes pour projeter des palmes d'or ou les films qui ont marqué l'histoire de Cannes. Donc on avait projeté Taxi Driver en début d'année, on a projeté La Dolce Vita aussi, mais ce cycle là se termine et donc là on est en train d'élaborer les projets pour les prochains mois.
D'accord.
Alors je vais pas en dire plus parce qu'on n'est pas encore sûr de tout ce qu'on fait, mais on a pas mal de soirées en tête, des nuits du cinéma fantastique, des nuits du cinéma musical. On va peut-être avoir des rencontres aussi avec des réalisateurs, des acteurs ou des personnes travaillant dans le cinéma. On aura peut-être des événements polémiques, on va voir. On va essayer...
Non,
on
essaie des événements polémiques.
Oui, c'est possible. On en reparlera plus tard. Mais effectivement, l'idée, c'est aussi de pouvoir diversifier notre programmation. Voilà, on a eu une grosse période Cannes parce qu'on était lancé. Mais maintenant, on passe sur autre chose. On a vraiment plein d'idées. Le pôle cinéma. Très bien son travail, ils ont des idées, ils ont plein de films méconnus qu'ils veulent nous faire découvrir et j'espère qu'un maximum de personnes vont les découvrir.
Mais après, il faut rappeler quand même que le clou de l'année avec Champ Libre, comme par exemple la carte blanche pour En Plastique, c'est le festival Contre-Champ, qui s'appelle Contre-Champ en général.
Oui, c'est le festival Contre-Champ.
D'accord.
Oui, c'était la première édition l'année dernière, c'est pour ça qu'on a le droit encore à un certain flottement. Mais...
C'est comme le frisson de Transistor. donc ce festival Contre-Champ est une sorte de festival de Cannes miniature pour l'ENS, si je ne me trompe pas.
Ça. Alors déjà, il se passe à peu près à la période du festival de Cannes. Et pour nous, c'est vraiment... Là, c'est pareil, c'est un moment où on s'amuse. Quoi. L'idée, c'est de recréer un festival de Cannes à l'ENS. Alors voilà, il y a un tapis rouge, il y a des projecteurs, il y a un mur devant lequel on peut prendre des photos. Et surtout, il y a une cérémonie. Alors, on ne décerne pas de prix, il n'y a pas de palme. Mais c'est l'occasion de projeter un peu les films de l'année. Alors d'abord, les films issus de l'appel à projet. Et aussi un certain nombre de films du week-end qui nous ont amusés, qui méritent d'être projetés. Et aussi de projeter des films qui n'ont peut-être pas eu assez d'audience un peu plus tôt. Moi, je pense au film d'Axel, justement. Donc Axel, le fondateur cannois de Champ Libre, qui a fait un film qui s'appelle La Nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Un film sur son grand-père, qui est cannois, qui a fait des films sur le festival, qui a fait lui-même des courts-métrages, et qui a un film assez merveilleux.
C'est
qui mérite d'être vu. Il a fait une projection, les gens étaient très... Les spectateurs étaient très, très, très heureux de le voir, et il a eu un très bon succès. Alors, bon, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de monde, enfin pas assez de monde, je pense, surtout, par rapport à la qualité de ce film. Mais du coup, le festival Contre-Champ a l'occasion aussi de revoir ou de voir pour la première fois les productions de l'année et donner l'occasion aux adhérents de Champ Libre, mais aussi aux non-adhérents, de voir un peu ce qu'on fait, juste autant une soirée, gratuitement, évidemment, pour clôturer un petit peu cette belle année.
D'accord, bon bah. De beaux projets en perspective et de belles actions. Je pense qu'on a fait le tour un peu de l'ensemble de vos activités,
ouais.
À Champ Libre, c'est assez vaste. Je voudrais vous dire merci déjà, parce que c'est vrai que c'est un peu ce genre d'association, comme toutes les associations culturelles de l'école, si les membres directs des bureaux ne s'y mettent pas à fond, ça fonctionne pas. On a vu des années un peu plus tristes. Et là, il me semble que justement, on est sur une belle lancée de tous côtés, en fait, à l'ENS pour ça. D'ailleurs, la fédération dont vous faites partie, il y a eu effectivement des débats sur le rôle de la place de champ libre à la fédération. C'est vrai qu'on en avait un peu discuté avant. Bon, à Transistor aussi, la question s'était posée. Puis c'est devenu un peu une évidence du fait de la solidarité générale, en fait, qui s'est mise en place. Je pense que vous êtes toujours dans cette...
Et puis surtout, disons, de l'esprit quoi, qui va avec. C'est-à-dire un esprit vraiment fédératif, un esprit associatif, un esprit de collaboration et d'initiative collective. Quoi. Vraiment, c'est surtout pour ça qu'on a adhéré à la fédération. Après, il y a eu d'autres pôles de la fédération qui nous concernent peut-être moins. Mais c'est vraiment surtout cet esprit-là qui nous tenait à cœur.
D'accord.
Là, j'aimerais dire, surtout pour finir, que la semaine du cinéma organisée par Transistor est quand même un bel exemple de ce qui se fait en ce moment à l'ENS, c'est-à-dire vraiment faire un partenariat entre En Scène, Transistor et Champ Libre. De mémoire de Normalien, je crois que ça ne s'est jamais vu.
Événement d'une semaine entière.
Voilà. Et, c'est une belle initiative, ça permet vraiment d'échanger entre nos associations, sur nos activités. Et merci Transistor.
Ouais, merci.
C'est tout
à fait normal. Oh, mais il n'y a pas de problème. Mais une dernière chose, du coup, dans ces questions de projets associatifs très larges, on évoque un potentiel festival hip-hop. Alors, oui. Je n'en dirai pas plus, puisque de toute façon, personne n'en sait plus pour l'instant. Mais là, ce serait du très, très lourd, puisque toutes les associations, en tout cas les associations culturelles, seraient représentées, voire d'autres associations sans doute.
Pourquoi pas l'AS pour de la danse ou des choses comme
L'AS, le BDE certainement, qui seront quelque part.
Le club œnologie se glisse toujours partout.
Voilà. Donc un gros événement nouveau. Ce serait une création justement du fait des acteurs de ces associations. Donc une chose à ne pas rater. Je voudrais rappeler, est-ce que vous pouvez le faire justement, vos coordonnées, enfin votre adresse mail.
Oui, l'adresse de Champ Libre, donc c'est Champ Libre au singulier, donc Champ sans S et Libre sans S, puisqu'il y a souvent des champs avec un S, .production@gmail.com. Voilà, et le site internet, le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook de Champ Libre, que vous trouverez aisément. Vous aurez sûrement déjà 25 amis communs avec elle, donc c'est pas difficile de la trouver.
D'accord. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Vera.
Merci à toi Paul.
Merci Sébastien.
Merci Paul.
Et puis à très bientôt pour de nouveaux événements associatifs. Et surtout, ne ratez pas la soirée de Transistor jeudi soir. Donc la soirée Stereo Night, qui sera sans doute une soirée des plus mémorables. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission Anormale. That frozen slice of time they tried to defrost, the senses lost. Now enough with the metaphors, the motivation that I wrote this letter for. For you to know that the music helps carry on, like you see a new day will bring us tomorrow.